Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, notre mission, c'est de démystifier un sujet qui se trouve vraiment à l'intersection parfaite entre le bouleversement émotionnel pur et la complexité technique la plus stricte.
C'est tout à fait ça, oui.
Et on va aborder le sort du bien immobilier commun lors d'un divorce ou d'une séparation.
Un moment très délicat, en général.
Exactement. Et plus spécifiquement, on va se concentrer sur un mécanisme financier absolument crucial, le rachat de Soult.
Le fameux rachat de Soult, oui.
Voilà. Et pour ancrer cette analyse dans une réalité bien tangible, toute notre réflexion va s'appuyer sur les dynamiques d'un marché immobilier qu'on sait particulièrement tendu, celui de Bordeaux et de la Gironde.
Un marché très spécifique, en effet.
Bon, décortiquons ça, parce que derrière ce terme de Soult, qui sonne un peu comme du vieux jargon juridique, il y a des enjeux financiers redoutables pour quiconque traverse cette épreuve.
Absolument. Je suis convaincu que c'est un sujet fondamental. Quand on s'intéresse à cette question, on réalise très vite que derrière le choc intime d'une séparation, il se cache une véritable restructuration patrimoniale.
C'est ça, oui.
Souvent, la première urgence qui se présente quand un couple se sépare, c'est de savoir qui garde le toit familial. Et la Soult, c'est l'outil juridique et mathématique qui permet de traduire cette séparation physique en une équité financière stricte.
D'accord.
C'est en fait le cadre officiel de ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial. Un passage obligé qui nécessite obligatoirement l'intervention d'un notaire.
Alors, pour poser une base bien claire avant d'entrer dans les complications, parce qu'il y en a, définissons rapidement la mécanique de calcul.
Allez-y, je vous écoute.
Si on prend l'exemple d'un appartement à Bordeaux.
Oui.
Évalué, disons, à 300 000 euros.
Très bien.
Et sur lequel il reste 100 000 euros de crédit en cours.
Le capital restant dû à la banque, voilà.
C'est ça. La valeur nette, elle est donc logiquement 200 000 euros.
Exactement. Soustra la dette de la valeur du bien.
Et dans un scénario standard où la détention est à parts égales du 50-50, la Soult représente simplement la moitié de cette valeur nette.
Ce qui nous amène à 100 000 euros.
Voilà. Le conjoint qui conserve le bien doit donc verser 100 000 euros à celui qui quitte les lieux. Ça paraît simple présenté comme ça?
Oui, mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette simple soustraction n'est en fait qu'une illusion de simplicité.
Ah bon? Ouais.
Bah oui, ce chiffre de départ de 100 000 euros, ce n'est presque jamais le chiffre final.
Pourquoi ça?
La véritable complexité, elle réside dans la manière dont le contrat de mariage initial vient percuter ce calcul de base.
Ah oui, le régime matrimonial.
Exactement. Était-il une communauté réduite aux acquêts? Une séparation de biens pure et dure? Il faut aussi intégrer ce que le droit appelle les récompenses.
Les récompenses? C'est-à-dire?
Disons que si l'un des conjoints a utilisé un héritage personnel, donc de l'argent propre, pour financer des travaux de rénovation dans ce bien commun, le calcul du 50-50 y vole en éclats.
D'accord, donc on divise plus simplement par deux.
Non, pas du tout. De plus, la Soult, elle peut être modulée par d'éventuelles prestations compensatoires.
Ah oui, pour équilibrer les niveaux de vie après la rupture.
C'est ça. Parfois, un ex-partenaire accepte une Soult inférieure pour compenser ce déséquilibre. Et c'est précisément pour démêler tout cet écheveau que le notaire n'est pas juste un greffier qui enregistre des chiffres.
Il a un rôle d'arbitre, en fait.
Un véritable arbitre financier, oui. Il garantit que toutes ces variables invisibles sont purgées et que le calcul est parfaitement exact.
C'est une excellente transition vers une dimension qu'on sous-estime très souvent, le facteur temps.
Oh oui, le temps, c'est crucial.
Parce que cette équation, elle ne flotte pas dans le vide. L'impact du type de divorce sur le calendrier immobilier modifie totalement la nature de l'épreuve.
C'est le jour et la nuit.
On observe deux réalités parallèles, en fait, seulement que la démarche est amiable ou qu'elle s'enlise dans le contentieux.
Le temps est effectivement la variable la plus destructrice ou la plus salvatrice dans ce processus.
Commençons par l'amiable.
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, donc amiable, l'approche permet aux deux parties de s'accorder librement sur le montant, avec l'aide de leurs avocats et du notaire.
Et ça prend combien de temps à peu près?
Sur le plan juridique, si le financement est déjà sécurisé auprès d'une banque, l'affaire peut être réglée et la pleine propriété transférée en l'espace de 2 à 4 mois.
2 à 4 mois, c'est assez rapide finalement.
Oui, c'est une transition propre qui permet de vraiment tourner la page.
Mais le tableau s'assombrit considérablement en cas de procédure contentieuse.
Malheureusement, oui.
Si aucun accord n'est trouvé sur la valeur de la maison ou sur le montant de la Soult, le dossier atterrit directement sur le bureau du juge aux affaires familiales.
Et là, la machine ralentit.
Un expert immobilier judiciaire peut même être nommé. Et dans une juridiction surchargée comme celle de Bordeaux, les délais explosent littéralement.
On parle de 12 à 18 mois d'attente au minimum.
12 à 18 mois. Mais comment on gère une telle inertie quand on est en pleine séparation?
C'est une paralysie globale. Pendant un an et demi, la situation de vie est totalement bloquée.
Psychologiquement, ça doit être épuisant.
Il est impossible de se projeter, oui. Mais sur le plan financier, c'est encore plus périlleux.
Pourquoi ?
Parce que pendant ces 18 mois, les deux parties restent solidairement responsables du bien vis-à-vis de la banque.
Ah, le crédit continue de courir.
Exactement. Les mensualités du crédit initial continuent d'être prélevées. Et il y a aussi la question de l'indemnité d'occupation.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
La personne qui reste vivre dans la maison pendant toute cette procédure contentieuse, elle est techniquement redevable d'un loyer envers l'indivision.
Un loyer à son ex-conjoint, en quelque sorte ?
Voilà. Ce qui viendra amputer sa part lors du décompte final chez le notaire. C'est une véritable bombe à retardement financière.
Ce qui nous amène inévitablement au nerf de la guerre. Le financement.
Le plus grand défi, oui.
Parce que si on reprend notre exemple avec une soulte calculée à 100 000 euros, la réalité pragmatique frappe de plein fouet.
Peu de gens ont ça sur leur compte courant.
C'est clair. La liquidité immédiate est rarement disponible et l'épargne classique ne suffit pas. Comment fait-on concrètement pour trouver cet argent ?
Le marché bancaire a structuré des réponses très précises pour ça, car c'est un besoin récurrent. Le levier principal, c'est le prêt immobilier dédié au rachat de soult.
Donc on fait un nouveau crédit ?
Oui, mais attention, la mécanique est spécifique. Il ne s'agit pas simplement de demander 100 000 euros à la banque pour payer son ex-conjoint.
Ah bon ? Comment ça marche alors ?
La réglementation exige que ce nouveau prêt solde obligatoirement l'ancien crédit commun en cours.
D'accord. On efface tout et on recommence.
Exactement. On efface l'ardoise à deux pour recréer une dette purement individuelle qui va englober le capital restant dû plus la nouvelle soulte.
Mais en dehors du circuit bancaire classique, il y a aussi d'autres options. La mobilisation de l'épargne personnelle, par exemple.
Oui, casser un livret A, un plan épargne-logement ou puiser dans une assurance-vie.
Ou encore l'intervention de la solidarité familiale. Demander de l'aide à ses parents. Mais sur ce point précis de l'aide familiale, il y a un piège fiscal redoutable à éviter, n'est-ce pas ?
Totalement. C'est une erreur très classique. Si des parents injectent des fonds pour aider à financer cette soulte, ce mouvement d'argent doit impérativement faire l'objet d'un acte écrit.
Un acte écrit obligatoire.
Oui, comme une reconnaissance de dette ou un prêt familial formellement enregistré.
Et si on ne le fait pas ?
Sans cette précaution, l'administration fiscale est tout à fait en droit de requalifier cette aide en donation déguisée.
Aïe.
Et ça déclenche des pénalités fiscales très sévères.
C'est bon à savoir pour notre auditoire. Et pour les profils dont l'endettement est déjà un peu tendu, il reste l'option du regroupement de crédit.
Le regroupement, oui, c'est une solution très utilisée.
L'idée, si je comprends bien, c'est de rassembler la soult, le reste du prêt immobilier, mais aussi d'éventuels crédits auto ou prêts conso, en une seule ligne de crédit.
C'est ça. On rassemble tout et on étire sur une durée plus longue pour faire baisser la mensualité globale.
D'accord.
Mais cette technique, elle met en lumière un changement de paradigme fondamental pour les banques. On passe brutalement d'une analyse de risque basée sur un couple souvent avec deux salaires à une évaluation sur un revenu unique.
Et ça, ça change tout pour la banque.
C'est un test de résistance extrême pour les finances personnelles. Les banques, et particulièrement en Gironde en ce moment, sont soumises aux directives strictes du Haut Conseil de stabilité financière.
Le fameux HCSF.
Oui. La règle cardinale impose que le taux d'endettement ne dépasse généralement pas 35% des revenus nets de l'emprunteur seul.
35% maximum.
Pour beaucoup, c'est un mur, un plafond de verre. C'est pourquoi l'intervention d'un courtier spécialisé en restructuration de dette, je pense notamment à des acteurs locaux comme Aura Finance à Bordeaux, devient vraiment stratégique.
Ils ne font pas que chercher un bon taux, en fait.
Non, leur rôle n'est plus seulement de négocier un taux, c'est de restructurer et de lisser la dette globale pour réussir à faire passer le dossier sous cette barre fatidique des 35%, tout en rassurant la banque.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette limite stricte d'endettement de 35% rend l'estimation initiale du bien absolument déterminante.
Le point de départ de tout le problème, oui.
Surtout quand on regarde la géographie des prix sur Bordeaux et sa périphérie. On comprend vite qu'une simple erreur d'évaluation peut faire dérailler toute l'opération de financement.
L'immobilier, c'est une science de l'hyperlocal. Une moyenne métropolitaine, ça masque toujours des disparités féroces.
Et le marché bordelais illustre parfaitement cette tension.
Complètement.
On observe une moyenne globale d'environ 4 200 euros le mètre carré dans l'hypercentre.
C'est la moyenne, oui.
Mais les écarts sont immenses. On peut se situer autour de 3 200 euros le mètre carré dans certains secteurs de la rive droite et franchir allègrement la barre des 5 500 euros dans le triangle d'or ou le quartier des Chartrons.
Voire beaucoup plus pour des biens d'exception.
Sur un appartement familial de 80 ou 100 mètres carrés, une telle variation modifie le calcul de la soulte de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
C'est énorme.
L'un veut pour payer moins cher et l'autre veut la maximiser pour partir avec plus d'argent.
C'est toute la dangerosité de cette première étape. Se fier à une estimation générée par un algorithme en ligne, c'est la pire des stratégies dans ce contexte de méfiance.
Trop imprécis.
Beaucoup trop. Il est indispensable de multiplier les regards. L'approche la plus saine consiste à faire réaliser plusieurs avis de valeur par des agents immobiliers de terrain. Ou mieux encore, de mandater conjointement un expert immobilier agréé.
Pour avoir un avis neutre ?
Exactement. Si l'estimation est artificiellement gonflée pour satisfaire celui qui part, la soulte devient si élevée que la banque refusera le prêt à celui qui reste. Ça bloque le rachat.
Et si elle est sous-évaluée ?
C'est l'équité qui est brisée. Voilà. La précision, c'est vraiment la seule voie de sortie.
Surtout que cette précision est vitale parce que le montant de la soulte, ce n'est pas le seul chèque à signer.
Loin de là.
L'opération s'accompagne d'un véritable iceberg de frais annexes.
Les coûts cachés de la séparation.
On a les frais de notaire, environ 7 à 8% pour de l'ancien. Le droit de partage perçu par l'État, qui est de 1,80% de la valeur nette du patrimoine partagé.
Sans oublier les frais bancaires.
Oui, les frais de garantie, les frais de dossier et les fameuses indemnités de remboursement anticipées de l'ancien crédit. L'addition semble très très lourde.
Elle l'est indéniablement. Les indemnités de remboursement anticipées peuvent d'ailleurs parfois se négocier avec la banque. Mais ça représente une vraie ponction.
Mais il y a une subtilité fiscale, non ?
Oui. Si on relie ça à la situation globale, la fiscalité réserve une excellente nouvelle. Une subtilité qui change radicalement la donne par rapport à un achat immobilier classique.
C'est une nuance un peu contre-intuitive. Comment ça marche ?
Dans le cadre spécifique d'un rachat de soulte suite à une séparation, on n'applique pas les droits de mutation classiques sur la valeur totale de la maison.
D'accord.
La règle est beaucoup plus avantageuse. Les fameux frais de notaire de 7 ou 8% s'appliquent uniquement sur le montant de la soulte, pas sur la valeur totale du bien.
Ah oui, c'est une énorme différence.
Majeure. Si on reprend notre appartement bordelais à 300 000 euros, avec une soulte de 100 000 euros, le notaire calculera ses frais uniquement sur ses 100 000 euros.
D'accord. Donc, si on récapitule les coûts pour cet exemple précis. Le notaire sur les 100 000 euros, le droit de partage à 1,80% et les frais bancaires.
On arrive à une enveloppe globale oscillant entre 8 000 et 12 000 euros de frais annexes au total.
C'est une somme importante, mais ça reste gérable si c'est bien anticipé.
Tout à fait. Mais la banque exigera que cette somme soit intégrée au plan de financement total, toujours sans faire exploser les 35% d'endettement.
Ce qui soulève inévitablement la question du plan B. Que se passe-t-il si ça coince, si malgré le courtier, malgré l'estimation parfaite, la capacité d'emprunt à 35% bloque toute l'opération ?
Eh bien, le plan B, il est simple. C'est l'alternative de la vente.
On vend la maison.
C'est la solution par défaut. Lorsque la restructuration financière en solo est mathématiquement impossible, on met le bien sur le marché. Le prêt en cours est remboursé avec le fruit de la vente et le reste est partagé entre les ex-conjoints.
Et sur un marché comme Bordeaux, ça se passe comment ?
Le marché permet encore des ventes dans des délais plutôt raisonnables. Mais en attendant la vente, le statut du logement bascule sous le régime de l'indivision.
L'indivision, oui. C'est souvent une période très compliquée.
Extrêmement. Parce que les ex-conjoints doivent se partager le paiement de la taxe foncière, de l'assurance et des éventuelles mensualités de crédit en attendant de trouver un acheteur.
Il faut continuer à gérer ensemble un bien dont on vous séparait.
C'est exactement ça.
Pour résumer un peu tout ça, conserver la maison familiale après une séparation, c'est un véritable parcours du combattant. Ça nécessite des calculs très précis, une compréhension claire du marché local et une restructuration financière vraiment rigoureuse.
C'est un projet à part entière.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pratiquement ? Comment on peut prendre un peu de recul sur cette avalanche de chiffres et de contraintes juridiques ?
Il y a une réflexion qui me semble essentielle et qu'on évoque trop rarement. Quand on voit qu'une personne seule doit souvent pousser son endettement au maximum des 35%, parfois sur 25 ans, juste pour garder le logement familial, ça soulève une question vitale.
Laquelle ?
Le confort émotionnel de conserver les murs de son passé vaut-il vraiment le risque de paralyser totalement sa capacité financière à construire de nouveaux projets pour son avenir ? C'est un arbitrage très douloureux entre le passé et l'avenir.
Une perspective vraiment forte qui donne à réfléchir pour quiconque serait confronté à cette situation. Merci beaucoup pour cet éclairage si précis sur ces mécanismes complexes.
C'était un plaisir.
Et merci à tous pour votre attention lors de cette exploration en profondeur. À très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée.